Bonsoir et bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe sur les ondes de CKRL 89.1 avec ce concept seul et unique sur le FM de Québec où on flirte avec le paranormal, où on explore l'inexploré. Fréquence d'Outre-Tombe, c'est quoi? Mais il y a David Rocketship avec vous pour la prochaine demi-heure. Ce qu'on fait, je prends vos appels, je prends vos témoignages paranormaux. Vous pouvez m'appeler au 418-640-1586. Je prends aussi des messages par courriel à outretombe.ckrl@gmail.com et je vous raconte justement en cours d'émission des histoires à nous faire peur, donc les seuls frissons sur le FM de Québec. Et on commence sans plus tarder avec un message de Nadine que j'ai reçu dans la dernière semaine. Laissez-moi sortir ça, j'ai ça tout prêt. Donc Nadine de Québec, elle nous écrit le message suivant. Je fais ma maîtrise en chimie à l'Université Laval. Un soir, j'étais au lab en train de faire des relevés sur mes échantillons et le téléphone a sonné. Ça m'a étonné puisqu'il était presque 11h du soir et que je ne l'avais jamais entendu sonner avant. J'ai répondu, il n'y avait personne sur la ligne, juste un léger bruit blanc. Allô? Allô? Rien. Mais il semblait y avoir un genre de légère respiration. En tout cas, quelque chose me donnait l'impression qu'il y avait quelqu'un au bout du fil, mais il ne parlait pas. J'ai attendu comme ça 10 ou 15 secondes, puis j'ai raccroché. 20 minutes plus tard, le téléphone a sonné encore. J'ai répondu « Allô? Allô? » Encore personne sur la ligne, juste un bruit lointain. J'ai raccroché. Un peu avant minuit, j'étais en train de ramasser mes trucs pour partir pour la nuit, et il a sonné une troisième fois. Oui, allô? Allô? Toujours personne, mais cette fois-ci, je peux jurer que j'entendais quelqu'un respirer à l'autre bout du fil. Allô? Allô? Pas de réponse, j'ai raccroché. Le lendemain, j'ai demandé à mon prof et superviseur de maîtrise qui avait bien pu appeler au lab tard le soir. Il m'a répondu que ce téléphone est débranché depuis plusieurs années et que la ligne ne sert plus. Merci beaucoup, Nadine, de nous avoir écrit ce témoignage. Nadine, étudiante en chimie à l'Université Laval. Et comme je vous parle, comme je vous lis ça, j'ai déjà le téléphone qui sonne. Donc, laissez-moi prendre la ligne une petite seconde. Je transfère ça. Oui, bonjour. Merci d'avoir appelé Fréquence d'Outre-Tombe à CKRL. À qui je parle?
À Nicole.
Salut Nicole, ça va bien? Je suis content de savoir que vous êtes à l'écoute.
Oui.
Vous nous écoutez de quel endroit, Nicole?
De Sainte-Catherine.
Sainte-Catherine, ah, de la Jacques-Cartier. Oui. Notre histoire, oui. Notre histoire la semaine passée se passait à Saint-Raymond. J'espère que ça ne vous a pas trop fait peur.
Non, pas pire.
C'est bon, parfait. Donc, donc Nicole, si vous nous appelez, j'imagine que vous avez quelque chose à nous raconter.
Oui, ben c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 14 ans. J'étais dans la maison chez mes parents avec ma cousine, puis mes sœurs, puis mes frères. Puis on jouait au jeu Ouija. Puis là, on demandait à notre grand-mère si elle était là. Puis là, ça a marqué oui, puis on a entendu un bruit dans la pièce à côté. Alors là, ma cousine est sortie à la course dehors, elle criait, elle avait peur. Puis là, moi, je suis allée voir dans la pièce à côté avec mon frère. Puis là, on voyait rien de spécial, mais dans la pièce, il y avait un garde-robe. On a ouvert le garde-robe, puis il y avait une grande poupée qui était tombée par terre dans le fond du garde-robe. Puis cette poupée-là, elle venait de la grand-mère. Fait que là, tout le monde a eu peur.
Hey, wow, c'est une belle histoire. C'est sûr que ça fait un peu peur, hein, comme témoignage.
En plus, on était jeunes, on avait 14-15 ans, là, on s'imagine, on n'avait pas dormi de la nuit.
Avec raison. Hey, merci beaucoup, Nicole, pour l'histoire. C'est un beau témoignage, ça. Je te remercie.
OK, ben ça me fait plaisir. Bonne soirée.
Bonne soirée. Merci. Continuez d'écouter.
D'accord, merci.
On remercie donc Nicole de nous avoir appelé. Et ce soir, on suit pour la plus longue histoire, je vous dirais, on suit un groupe de randonneurs qui auront malheureusement tous trouvé la mort. C'est une histoire vraie, quoique toutes nos histoires sont des histoires vraies, mais celle est plus vraie que vraie et est même très bien documentée. Aujourd'hui, je vais vous parler du col de Dyatlov. C'est un incident qui a eu lieu en février 1959 en Union soviétique. Le col de Dyatlov ou Dyatlov Pass en anglais, si vous voulez faire des recherches sur le sujet, la plupart du matériel est en anglais, donc Dyatlov Pass, en fait, a été renommé suite à l'incident mystérieux là en question, où neuf étudiants du Ural Polytechnical Institute ont perdu la vie, par hypothermie ou par lésion corporelle. Je vous raconte ça, là. Tout ça a commencé en 1959, donc en janvier 59, 9 étudiants, mais en fait 10 étudiants du Ural, comme je vous le disais, Polytechnical Institute, ont décidé d'organiser une excursion à ski de fond qui devait durer environ 2 semaines. Donc, ils voulaient se rendre au Sverdlovsk Oblast, c'est en Union soviétique, pas mal dans le milieu là, du pays. Et à la tête de l'expédition se tenait Igor Dyatlov, 23 ans. Donc, c'est à son nom là, que cet endroit-là où l'excursion est disparue, c'est d'après lui qu'on a renommé le col de Dyatlov. Lui, Dyatlov, était étudiant en ingénierie radio, avait 23 ans, puis ses 9 autres collègues ou étudiants aussi, randonneurs, qui allaient faire la trek avec lui, étaient tous étudiants de la même école, avaient tous entre 20 et 24 ans, à part Semyon Alexander Zolotaryov, qui lui en avait 38. Donc, ces 10 personnes-là avaient de l'expérience en ski de fond, étaient tous certifiés randonneurs de grade 2, puis allaient recevoir leur grade 3, leur certification grade 3 au retour de cette excursion-là. Là, on parle de la plus haute certification là, qui peut être, ou en tout cas à l'époque, qui pouvait être attribuée à un randonneur. Bref, tout ça pour vous dire qu'ils avaient de l'expérience, qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, qu'ils en avaient déjà vu d'autres, puis que même le chemin qu'ils allaient emprunter avait été approuvé là, par les autorités. Donc, le groupe de 10 personnes part le 25 janvier en train et se rendent au village de Ivdel. Là, on est dans des coins vraiment très ruraux, très reculés. De là, prennent un camion pour se rendre au village de Vizay. Ça, c'est toujours le 26 janvier 1959. Ils dorment là, puis le lendemain, commencent leur trek. En quittant le village, ils avertissent leur famille et leurs amis qu'ils devraient revenir autour du 12 février. Donc, environ là, 15-16 jours plus tard, puis que de là, ils vont envoyer un télégramme quand ils vont revenir. Donc, le 27 janvier, ils commencent leur route, leur trek là, à ski de fond. Bon, c'est l'hiver, il y a de la neige, tout ça. Il y en a un qui revire de bord, il y a des rhumatismes, il y a mal aux genoux. Donc, lui décide de revirer de bord, donc il se retrouve neuf. Ça, c'est leur première journée. Puis ils marchent comme ça, font leur trek. Après quelques jours, le 31 janvier, leur principale activité de la journée, c'est d'escalader une paroi qui les amène au fameux col, au fameux passage, là, comme un versant de montagne, qui va être éventuellement renommé le col de Dyatlov. Donc le 1er février, ils sont là, ils se lèvent le matin, leur but pour la journée, c'est de traverser le col, puis de se rendre de l'autre côté, de dormir de l'autre côté le soir. Donc là, ils marchent toute la journée, puis vente, il se met à neiger très très fort, il y a une bonne tempête, là, la visibilité est affectée, puis sans trop s'en rendre compte, ils dévient vers l'ouest. Puis quand ils s'en rendent compte, rendu un petit peu plus tard, là, en fin de journée, quand ils réalisent, tu sais, qu'ils ont fait une erreur puis qu'ils ont dévié vers l'ouest, ben là, ils sont face à une décision, soit ils restent là, puis qu'ils campent là cette nuit, ou soit ils marchent 1,5 km plus bas, en fait. Il y a une forêt, il y a une petite lisière, il y a une forêt. Mais par contre, bon là, c'est ça, ils seraient à l'abri, bon, par les arbres, ils seraient plus à l'abri des conditions, tout ça. Finalement, bon, Dyatlov, avec son équipe, décide qu'ils vont dormir sur place, à flanc de montagne, ben pour deux raisons. Premièrement, ils perdraient de l'altitude là, en redescendant 1,5 km plus bas. Puis deuxièmement, le camping à flanc de montagne a ses considérations techniques qui sont intéressantes bon, pour pratiquer. Fait que, bref, ils vont pratiquer leur camping à flanc de montagne en même temps. Cette décision-là va finalement leur avoir été fatidique, là, parce qu'on n'aura plus de nouvelles avant eux. Donc là, on est dans la nuit du 1er au 2 février 59. Puis donc, 10-11 jours plus tard, le 12 février, personne reçoit le télégramme qui était attendu. Mais après, bon, pour une excursion de 15-16 jours comme ça, on n'est pas à une ou deux journées près, là. Donc, on laisse les choses aller. Puis c'est seulement qu'environ une semaine plus tard, rendu au 20 février, où là, les familles et les amis commencent à demander des recherches. Donc, c'est des bénévoles de l'endroit qui vont commencer les recherches, qui vont refaire le chemin qui avait été soumis là, aux autorités, qui avait été déclaré. Puis, quelques jours plus tard, l'armée puis les milices s'en mêlent. Puis, ça va avoir pris 6 jours de recherche avant qu'on retrouve la tente. Donc, la tente a été retrouvée le 26 février. Ça, c'est 25 jours après l'incident en tant que tel. Puis là, c'est les conditions mystérieuses qui entourent tout ça, qui font de cet événement-là, de cet incident-là, une petite perle, là, justement, pour les amateurs d'inexpliqués, là, comme vous et moi. Donc, je vous explique. Les chercheurs, les bénévoles ont retrouvé la tente déchirée, découpée. Un peu plus tard, ils auront déclaré que la tente avait été déchirée de l'intérieur. Donc déjà, premier élément un petit peu mystérieux. Il y avait du matériel encore dedans. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été abandonnées. Même les vêtements étaient encore à l'intérieur. La plupart des vêtements à l'intérieur et répandus un peu là, bon, autour de la tente. Ensuite, on a retrouvé 9 paires de traces de pas. Donc, on a vraiment les 9 personnes qui sont parties de la tente vers le bas de la montagne. Autre élément mystérieux, c'est que les traces de pas font environ 500 mètres avant de s'atténuer. En fait, les traces vont pas plus loin que 500 mètres de la tente. Puis là, on n'a pas de corps, on retrouve rien pour l'instant. Puis les traces de pas en tant que telles sont pour la plupart soit nu-pied, soit en pied de bas, ou dans un cas, il y avait un seul soulier, tu sais, fait qu'on voit qu'ils ont pas pris le temps de s'habiller, tout ça, ils sont vraiment partis de la tente dans leur bon probablement comme ils dormaient. Puis finalement, ben c'est 1,5 km plus loin qu'on a retrouvé les 2 premiers cadavres. Donc au pied d'un pin à l'entrée de la forêt là, justement vers le bas de la montagne, il y avait un grand pin. Puis au pied de ce pin là, on a retrouvé les deux cadavres. Eux étaient nu-pieds et en sous-vêtements, même presque nus. Ils s'étaient fait un petit feu. On voit qu'il y avait des cendres, là. Il y avait un petit reste de feu. Leurs mains et leurs pieds étaient brûlés, probablement par une trop grosse exposition là, justement au feu. Puis un autre élément de mystère là-dedans, c'est que les branches de l'arbre en tant que tel avaient été cassées jusqu'à 5 mètres de hauteur dans l'arbre. 5 mètres, c'est quand même une bonne quinzaine de pieds, là, donc ça suggère soit que quelqu'un est grimpé dans l'arbre, puis est tombé, bon, probablement pour voir où il était, tout ça. Donc là, on trouve juste 2 cadavres. Ensuite, on refait le chemin entre l'arbre et la tente en tant que telle, puis on retrouve les 3 autres corps, les 3 autres cadavres, 3 autres dépouilles. Eux, chacun est séparé de plusieurs centaines de mètres, donc l'un de l'autre, puis leur position montre ou suggère qu'ils étaient en train de retourner à la tente. Encore une fois, ils sont en sous-vêtements, à peu près pas habillés, pas de souliers ou en pied de bas. Donc, on vient de retrouver 5 personnes comme ça. On n'oublie pas qu'ils étaient 9. Donc, pour les 4 autres personnes, ça aura pris presque 2 mois, un autre 2 mois avant qu'on les retrouve. Donc, 2 mois de recherche de plus. C'est le 4 mai qu'on les a retrouvés. On se rappelle que l'incident a eu lieu le 1er, dans la nuit du 1er au 2 février. Donc, c'est 3 mois après l'incident là, qu'on a retrouvé les 4 autres cadavres, les 4 autres dépouilles, dans un ravin, vraiment pas loin de là, tout près du grand pin où on avait retrouvé les premières dépouilles. Bref. Donc, eux, ce qui est justement un petit peu mystérieux dans leur cas, c'est que ils sont pas décédés d'hypothermie comme les autres. Les autopsies auront noté des fractures du crâne et des fractures à la poitrine causées par des impacts de très haute force. Donc encore un élément mystérieux ici. On dit que c'est des forces comparables à un accident de voiture à très haute vitesse, là, qui ont les dommages internes qu'ils avaient. Puis aussi, autre fait à noter, là, c'est que les dépouilles ont été retrouvées. En fait, deux des dépouilles ont été retrouvées sans leurs yeux. Une des victimes a été retrouvée sans sa langue. Puis on dit même que elle lui manquait, c'est en fait Dubinina, son nom, là, elle lui manquait ses yeux, ses lèvres, des tissus faciaux et un fragment de son crâne. Elle était manquante, là, si on veut. Puis encore, eux étaient un petit peu mieux habillés que les autres, mais pour la plupart, là, deux ou trois d'entre eux étaient pratiquement nus, puis elles s'étaient rhabillées avec des vêtements de leurs collègues, donc probablement qui étaient décédés en premier, puis leur avait pris leurs vêtements par après, ou en tout cas, c'est ce que ça suggère. Donc évidemment, si on fait un petit récapitulatif de tout ça, on a ces 6 personnes qui sont décédées d'hypothermie, 3 sont décédées de traumatisme corporel, dû à des forts impacts. Puis ce qu'on note aussi d'intéressant, c'est que les blessures, en fait, n'ont pas donné de dommages externes ou au tissu. C'est-à-dire que, bon, leurs os, les fractures du crâne, leurs os de la poitrine étaient cassés, tout ça, mais il n'y avait pas de signe d'impact externe. C'est-à-dire que si on fait un accident de voiture, par exemple, ben on va avoir des chocs, on va avoir des bleus sur le corps, tout ça. Mais là, ça, c'était pas le cas. Pour eux, les dommages étaient vraiment seulement à l'interne. Puis, donc, ce qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de signe de qui que ce soit d'autre. Donc, on sait que probablement qu'il était vraiment tout seul. Il n'y a pas eu d'autres traces de pas, il n'y a pas d'autres humains. On sait que la tente a été déchirée de l'intérieur. On sait que tout le monde a quitté à pied, à peu près, probablement en même temps, sans prendre le temps de s'habiller ou sans même prendre le temps de se mettre des souliers, là. Puis, on a retrouvé un autre élément ici qui ajoute au mystère, c'est qu'une des victimes avait des hauts taux de radiation sur ses vêtements. Donc, on ne sait pas encore une fois, on ne sait pas trop d'où ça vient. L'une des victimes présentait cette particularité-là. Puis, on sait autre chose, si on résume, on sait qu'il y avait, bon, évidemment, aucun survivant. Évidemment, il y a plusieurs théories qui ont été émises à l'époque et encore aujourd'hui, c'est très disputé, c'est très discuté. Puis, à l'époque, on sait que, bon, on a retrouvé sur le site des journaux d'expédition. Donc, eux, à tous les jours ou plusieurs fois par jour, écrivaient où ils étaient rendus, tout ça. On a retrouvé aussi des négatifs de films dans leur caméra. Ils avaient pris des photos. Puis ça a été conservé. C'est un petit peu bizarre, là, mais ça a été conservé dans les archives privées d'un des enquêteurs là-dessus, puis ça aura pris une quarantaine d'années avant qu'il remette ça à la famille. Donc en 97, lui a remis ça à la famille, les journaux, les films, les négatifs, tout ça. Puis c'est en 2009 que c'est devenu du domaine public. Puis un autre élément aussi qui est intéressant à noter, c'est qu'en avril 2018, il y a un journaliste, donc ça c'est très récent, là, ça fait 2 ans environ, il y a un journaliste du Komsomolskaya Pravda, qui est un journal, ok, lui a réussi à avoir le droit d'exhumer la dépouille de Zolotarev, puis parce qu'il y avait un genre de doute, lui, sa théorie, à ce journaliste-là, c'est que, bon, s'il y aurait peut-être un test, genre des tests militaires qui auraient mal viré, là, puis que l'armée russe aurait essayé de cacher ça ou d'essayer de faire passer ça pour un accident. Bref, lui a réussi à obtenir le droit d'exhumer le corps de Zolotarev, puis s'est rendu compte que son ADN, l'ADN de la dépouille, ne correspondait pas à l'ADN de ses proches, donc de sa famille. Puis il a aussi constaté des incongruités au niveau du registre du cimetière. Donc, selon le registre du cimetière, c'est pas lui, c'est pas Zolotarev qui était à cet emplacement-là, dans cette place-là, en fait, quoique c'est son nom qui était sur la pierre tombale. Donc, je vous dis ça, tout ça un petit peu en rafale, là, les faits un petit peu cocasses ou intéressants qui nous intéressent. Évidemment, il y a un tas de théories qui ont été émises suite à cet incident-là. On a évidemment noté les attaques d'animaux. Puis évidemment, ben les gens qui croient ou qui disent avoir vu déjà des animaux, genre l'abominable homme des neiges ou le Yeti, ben là, pensent que ça en serait une conséquence. Évidemment, il y a la théorie de l'avalanche, qui est jusqu'à aujourd'hui la théorie la plus officielle. J'y reviens dans une petite seconde. Il y a aussi la théorie des vents catabatiques. Donc ça, c'est un phénomène naturel qui existe. Là, ça s'est vu ailleurs, dû à la gravité puis au changement de température. En fait, on sait que l'air froid étant plus lourd que l'air chaud, étant plus dense que l'air chaud, va avoir tendance à descendre. Donc à flanc de montagne, ça peut faire une zone de très très forte pression qui peut avoir causé là que ça devenait impossible de rester dans la tente. Peut-être qu'il aurait eu peur d'une avalanche même s'il n'y en avait pas, tu sais. Ensuite, on a parlé des infrasons, un genre de vent par une disposition un petit peu géométrique, là, des vents qui causent un vortex qui crée un genre de son à très basse fréquence, donc vraiment des ondes de pression là, dans l'air, qu'on n'entend pas mais qu'on ressent, puis que ça c'est connu, ça existe encore une fois, c'est connu pour créer un inconfort mental ou un inconfort physique chez les gens qui sont exposés. Donc on sait que ça peut avoir induit une genre de crise de panique là, chez les neufs campeurs. Ensuite, on a aussi la théorie, comme je vous le disais, la théorie de la base militaire secrète là, qui faisait des tests, bon, qui s'est mal viré. On parle de radiation qu'on a retrouvée sur les vêtements. On parle du fait que l'ADN d'une des dépouilles ne correspondait pas. Ensuite, bien évidemment, il y a les ufologues qui, eux, prétendent que ça peut être... Ça peut être une visite d'une forme ou d'une intelligence là, bon, venue d'ailleurs, qui serait à l'origine de cet événement-là. Une autre théorie qui a été entendue souvent, c'est les tribus Mansi. Donc, on sait qu'il y a des tribus dans ces endroits-là, des tribus bon aborigènes là, qui eux élèvent des rennes, vivent dans les montagnes, tout ça. Par contre, là, on sait que ces tribus-là sont pas reconnues pour être violente, de toute façon, on sait qu'on a retrouvé seulement que 9 traces de pas, donc il n'y avait pas d'autres présences, d'autres humains là, sur le site ou autour du site. Donc, et ça, pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui de cette histoire-là, c'est qu'en fait, en 2019, l'année dernière, on a lancé, le gouvernement russe a relancé une enquête et les résultats sont tombés il y a quelques semaines à peine, là, ça fait une quinzaine de jours, puis c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Puis les résultats, ben, sont un petit peu, pour les amateurs d'inexpliqués comme nous, sont un petit peu décevants, je vais dire. Ce qui semble être le plus plausible, c'est vraiment une avalanche qui aurait, bon, causé hypothermie et lésions, là. Les quatre personnes qui auraient tombé dans le petit ravin sous le poids de la neige, ça aurait été assez pour briser leurs organes, pour briser leurs os, en fait, causer des fractures. La théorie de l'avalanche, par contre, elle est très décriée, là, elle est démentie un peu, ou du moins elle est contestée, parce qu'on sait qu'il y a plus de 100 expéditions qui ont passé dans la région suite à l'incident, puis que toutes les expéditions s'entendent pour dire qu'il n'y a aucun risque d'avalanche à cet endroit-là, qu'il n'y a pas de... c'est pas un terrain qui est propice à ça. Aussi, on sait que la tente était couchée, était affaissée sur le côté et non pas à l'horizontale, comme ça aurait été le cas s'il y avait effectivement eu une avalanche. Puis aussi, on a retrouvé la tente 3 semaines plus tard, puis il y avait très très peu de neige dessus, là, donc c'était vraiment pas assez. Elle était pas sous un glissement là, de neige ou important. Ensuite, on sait que même 3 semaines plus tard, on a retrouvé des traces de pas. Donc, encore une fois, s'il y avait eu l'avalanche, bien évidemment, on n'aurait pas retrouvé de traces de pas, là. Puis, on sait que les... Ah oui, un autre élément aussi qui est ressorti, c'est que les traces de pas qui quittaient la tente n'étaient pas des pas de course, mais bien des pas de marche. Donc, tu sais, de par la distance entre les pieds, selon la grandeur des gens, tout ça, on est capable de déduire aujourd'hui que c'est pas 9 personnes paniquées qui ont couru en dehors de la tente, c'est 9 personnes au pas de marche qui sont en allées vers le bas de la bâtisse. Donc, c'était ce que je voulais vous raconter ce soir, un fait ou un phénomène réel, difficile à expliquer, qui est très, très intéressant. Il y a beaucoup de matériel sur le sujet. Vous allez trouver des documentaires, vous allez trouver des films de fiction, vous allez trouver des films d'horreur sur le sujet qui qui évidemment qui extrapole. Mais c'est ça, le Dyatlov Pass ou l'incident du col de Dyatlov est quelque chose qui est le fun à lire. Je vous invite donc, si vous êtes curieux comme moi, à aller en lire un petit peu plus sur le sujet. C'est une mine d'or pour les amateurs de curiosité comme vous et moi. Vous êtes bel et bien sur Fréquence d'Outre-Tombe à CKRL 89.1. C'est ce qui met déjà fin à cette édition de Fréquence d'Outre-Tombe. On se reparle la semaine prochaine dès 22h30 pour d'autres histoires à faire peur. Et ce soir, on se laisse sur une pièce musicale des Cramps, des légendaires Cramps. On a Human Fly. Bonne nuit à tous.
Nine to six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push the best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare, cause I'm a reborn.